Gloire à notre Dieu. Eh bien, pour vous qui ne le savez peut-être pas, hein, au cas où, nous étudions depuis à quoi, 3 mercredis, déjà la thématique de l'Église. Nous étudions la doctrine de l'Église. La doctrine de l'Église, c'est une des doctrines fondamentales de la foi chrétienne, protestante, évangélique. Hein. Nous étudions la doctrine de l'Église, les contours de cette doctrine, la réalité spirituelle et biblique de l'Église. Et lorsque j'ai eu à introduire cette thématique pour la toute première soirée dans la congrégation, j'avais tenu à dire que l'Église que nous étudions, eh bien, c'est l'Église biblique, hein? L'Église biblique. Donc, nous étudions l'Église biblique, l'Église au sens biblique du terme, l'Église suivant la définition biblique du terme. N'oubliez pas cela. Et depuis que cela a commencé, nous avions parlé de l'Église, de la nature de l'Église. J'ai parlé de la nature de l'Église et j'ai parlé de la naissance de l'Église depuis qu'on a commencé avec cette thématique, la nature de l'Église, la naissance de l'Église plus récemment. Et je ne reviendrai pas sur ce qu'on avait dit par rapport à ces points qu'on a déjà débattu. Je veux simplement vous en parler, vous l'annoncer. Et au cas où vous voudriez vous-même poursuivre vos études personnellement. Et en parlant de la nature de l'Église, mercredi dernier, j'ai attiré votre attention sur quelques images, hein, Dieu qui parle dans sa condescendance, qui utilise des images et qui nous sont familières en tant qu'humains pour parler de la réalité céleste si importante qu'est l'Église, de la réalité éternelle si importante qu'est l'Église. Alors Dieu utilise plusieurs images dans sa parole. C'est ce qu'on a regardé mercredi dernier pour nous faire comprendre ce mystère, ce saint mystère qu'est l'Église. Alors, on a vu qu'il utilise l'image de la famille. Dieu utilise l'image du groupeau, du corps. Hein? Il utilise l'image de l'édifice ou bien du temple, hein, pour parler de la Sainte Église, frères et sœurs, mes bien-aimés. Et quand j'évoquais ces images-là, on les a regardées en détail mercredi dernier à travers même la parole, à même l'écriture. Je vous avais dit que, eh bien, ces images sont données, sont utilisées, servent à nous mieux faire comprendre, ouais, à nous faire comprendre mieux, à nous mieux faire comprendre, eh bien, la réalité spirituelle éternelle, le saint mystère que représente l'Église du Seigneur. Oh, j'allais oublier aussi l'image de l'épouse ou de fiancé. Il y en a d'autres, hein. Je vais faire une sélection parce que je n'ai pas parlé de l'Église comme étant le troupeau la fois passée, mais le troupeau, c'est aussi une image que Dieu utilise pour parler de l'Église. La vigne, hein, la vigne, c'est aussi une image que Dieu utilise pour parler de l'Église. Et en vérité, à bien considérer, à bien comprendre toutes ces images-là, eh bien, cela nous aide à mieux comprendre, eh bien, l'Église. Quand je parlais du royaume de Dieu, quand j'étudiais la thématique du royaume, j'avais attiré votre attention sur le fait que l'Église n'est pas le royaume et que le royaume, ce n'est pas l'Église. J'avais dit que l'Église est plutôt le peuple du royaume. Le Christ a prêché le royaume, il n'a pas prêché l'Église. Hein? Il a dit, repentez-vous car le royaume est prêt. Et il n'avait pas dit que l'Église était prête. Et à une autre occasion, il a promis de bâtir son Église. Hein, il n'a pas promis de bâtir son royaume. Donc, le royaume est éternel. Alors, il faut bien comprendre et cette différence. Donc, l'Église, comme j'avais dit, c'est l'instrument du royaume. L'Église prêche le royaume à la suite du Christ, à la suite des saints apôtres. L'Église prêche le royaume. L'Église est l'instrument de croissance du royaume. Alors, bien important de comprendre cela. Pourquoi je le dis? Mais c'est parce qu'il y a quelques étudiants de la Bible qui parlent du royaume comme étant de l'Église ou de l'Église comme étant du royaume. Et parmi les images que nous avons pour parler de l'Église, nous n'avons pas nécessairement le royaume. Le royaume est une entité à part dans ce sens-là. Bien important de comprendre les différences, frères et sœurs. Ce soir, nous allons avancer dans l'étude de la thématique dans la grâce du Seigneur. J'aimerais simplement attirer votre attention sur une vérité très technique. J'espère que cela ne vous semblera pas trop complexe. Je vais essayer. Je ne peux pas voir votre visage. Parfois, les visages sont très parlants. Ça m'aide à comprendre si c'est trop complexe ou pas. Mais j'aimerais attirer votre attention sur, vite, vite, sur le fait que la plupart de ces images, hein, la plupart de ces métaphores que le Saint-Esprit de Dieu utilise pour parler de l'Église afin de nous permettre de mieux voir, de mieux comprendre la réalité éternelle, la réalité spirituelle qu'est l'Église, eh bien, et la plupart de ces images sont utilisées, frères et sœurs, tant pour l'Église universelle que pour l'Église locale et pour l'Église individuelle. Vous m'avez déjà entendu parler dans la congrégation ou bien prier en parlant de l'Église dans sa collectivité et l'Église dans son individualité. Hein? C'est parce que je le dis, parce que c'est biblique. Si cela n'était pas, je ne l'aurais pas dit. Et alors, et toute cette compréhension, toute cette connaissance des choses de Dieu vient de ce que je viens de vous dire, à savoir que la plupart, hein, chacun de nous est une église. Tamar est une église, Sego est une église, Edzé est une église, et ainsi de suite. Karine est une église, Phyllis est une église, etc. Quand Phyllis est au travail, c'est l'église de Dieu qui est au travail là. Hein? Quand vous conduisez, quand Sego conduit, c'est l'église de Dieu qui conduit là. Quand vous êtes chez vous, c'est l'église qui est chez vous là. Pourquoi? Mais parce que l'église, c'est l'habitation de Dieu. Hein? L'église est définie comme étant l'habitation de Dieu. Et là où le Saint-Esprit habite, il y a l'église. Et l'Écriture nous montre cette réalité de plusieurs manières. Et une de ces manières-là, c'est que lorsque la Bible parle, par exemple, de l'Église universelle comme étant un corps, il parle du croyant comme étant le corps de Christ et il parle de l'Église locale comme étant le corps. Et l'Église parle de l'Église universelle comme étant l'épouse du Seigneur. Il parle de chaque chrétien comme étant l'épouse du Seigneur. Il parle de l'Église locale comme étant l'Église du Seigneur, l'épouse du Seigneur. Même chose pour le troupeau. Le troupeau, l'Église universelle, c'est le troupeau. L'Église locale, c'est le troupeau. Et le croyant individuel, c'est un troupeau. C'est le troupeau, c'est la brebis du Seigneur. Presque c'est vrai pour toutes les images. Je vais simplement vous donner quelques exemples, espérant que cela ne paraîtra pas trop complexe. Pensons par exemple à la réalité, et prenons l'Église universelle, OK? Prenons l'Église universelle pour démontrer vite, vite ce que je vous dis. L'Église universelle est appelée l'épouse du Seigneur, OK? Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Nous avons déjà considéré ce passage à plusieurs reprises, pour plusieurs raisons, pour étayer plusieurs faits, plusieurs vérités. Mais nous y reviendrons parce que nous voulons étayer une autre vérité biblique. Donc, je recommence. L'Église universelle est appelée l'épouse du Seigneur, est comparée avec l'épouse du Seigneur dans l'Écriture, Éphésiens 5, le verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Okay? Donc, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, l'Église universelle ici est comparée à l'épouse du Seigneur. Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Comprenez bien cela. La même Église universelle est considérée comme étant le corps, hein, le corps du Christ. Dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 23, il est écrit, il a tout mis, en parlant de Dieu, il a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, hein, qui est son corps. Voyez-vous, donc, l'Église ici, c'est l'Église universelle, qui est le corps de Jésus. Donc, nous avons l'Église universelle qui est appelée l'épouse du Seigneur. Christ a aimé et l'Église s'est livrée pour elle. Et dans d'autres passages de l'Écriture, nous l'avons déjà vu, que l'Église est considérée comme étant l'épouse du Christ. Elle est le corps du Christ selon Éphésiens 1er, le verset 23. Et à cette même Église universelle est décrite sous l'image d'édifice ou bien de temple dans 2 Corinthiens 6, le verset 16, quand Paul écrit, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voyez-vous, donc à date, nous avons vu l'Église universelle sous l'image de l'épouse du Christ. Nous venons de la voir sous l'image du corps du Christ et nous venons à peine de la voir sous l'image eh bien, de l'édifice ou du temple de Dieu, frères et sœurs. Et maintenant, nous pouvons voir cette même Église sous l'image de troupeau. Hébreux 13, le verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, voyez-vous, donc qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Le Christ est le pasteur des brebis, c'est-à-dire les brebis ici, eh bien c'est chaque membre du corps universel de Dieu, de Jésus. Chaque chrétien, chaque personne sauvée. Et rétroactivement ou présentement, actuellement. Donc, est considéré comme étant les brebis de Dieu. Donc, l'ensemble des brebis, c'est le troupeau. L'ensemble des brebis, c'est le troupeau. Donc, c'est ici, les brebis représentent l'Église, la famille et le Dieu et frères et sœurs, et le Christ étant le pasteur, le berger. Il dira lui-même, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Vous connaissez très bien ce passage de Jean 10. Alors, bien important de réaliser ici que l'Église universelle est présentée sous quatre images, épouse, corps, édifice, temple et puis troupeau. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est que ces mêmes images, ou presque, sont utilisées pour l'Église locale. Commençons avec l'image de l'épouse. Donc, nous allons voir que l'Église locale est décrite sous le nom d'épouse, sous l'image d'épouse selon 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, quand Paul dit, car Paul s'adresse à l'Église de Corinthe, il lui dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé avec un seul époux. Voyez-vous, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, nous venons d'avoir tout à l'heure, dans Éphésiens 5, verset 25, l'Église universelle qui est considérée comme, qui est définie, qui est décrite sous l'image d'une épouse. Et nous avons maintenant une Église locale, en l'occurrence l'Église de Corinthe, qui est décrite sous l'image eh bien, d'une fiancée. Et en ce temps-là, fiancée et épouse, c'est la même chose, frères et sœurs, mais bien-aimés. Maintenant, nous allons voir que l'Église de Corinthe, au même titre qui est une église locale, au même titre que l'église universelle, eh bien, est décrite sous l'image du corps à la faveur d'un texte biblique que vous connaissez très bien, en l'occurrence 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 27. Hein? Dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, l'apôtre Paul va parler de l'église du Seigneur comme étant d'un corps, mais ce ne sera pas comme le quand il parle de l'Église universelle. Ce ne sera pas corps au même sens de corps quand il parle de l'Église universelle. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27, nous la connaissons très bien. Par conséquent, je ne veux pas vous lire tout le passage. De toute façon, nous l'avions lu pour étayer une autre vérité biblique mercredi dernier. Je vais simplement vous lire les versets à peut-être 14. Quand Paul dit, ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Paul n'est pas en train de parler ici, quand il dit le corps n'est pas un seul membre, il n'est pas en train de parler de l'Église universelle. Hein? Et il est en train de parler de l'Église locale. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Voyez-vous? Donc, bien important de comprendre cette vérité ici. Donc, là, l'image du corps, je suis en train de vous montrer, comme je l'ai fait pour troupeau, comme je l'ai fait pour épouse, comme je l'ai fait pour Édifice Temple, comme je l'ai fait pour Corps, en ce qui a trait à l'Église universelle, je suis en train de vous montrer que l'image de corps ici, qui s'applique à l'Église universelle, s'applique tout aussi bien à l'Église locale. C'est ce que je viens de faire. Même chose pour l'Édifice Temple, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, dit Saint Paul, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Paul parle de l'Église comme étant un édifice, non pas en parlant de l'Église universelle, ce qui est aussi le cas, c'est ce que j'essaie de vous démontrer, mais il parle ici de l'Église locale comme étant, eh bien, l'édifice temple, eh bien, du Saint-Esprit de Dieu. L'Église locale va être considérée comme troupeau également, au même titre que l'Église universelle, selon Actes chapitre 20, le verset 28, quand il est écrit aux anciens, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, hein, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Voyez-vous? Donc l'image de troupeau, quand Christ parle de ses brebis, eh bien, on a la même image ici pour l'Église locale, frères et sœurs. Qu'en est-il du croyant, de chaque croyant, de chaque chrétien individuellement? Même chose. Chaque croyant, la Bible parle de lui comme étant l'épouse du Seigneur, comme étant le troupeau du Seigneur ou brebis du Seigneur. Et la Bible parle de chaque croyant individuel comme étant l'édifice temple de Dieu et aussi comme étant, eh bien, le corps de Christ, frères et sœurs, mes bien-aimés. Nous allons voir un passage d'abord pour le temple, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ici, Paul s'adresse à chaque chrétien individuellement, toujours à l'église de Corinthe que vous avez reçue de Dieu. Ça, c'était pour l'image de édifice temple appliqué aux croyants individuels, au même titre qu'à l'église locale et à l'église universelle. Maintenant, on y va pour le troupeau, pour l'image de troupeau. Dans Luc chapitre 15, les versets 4 à 10, le Christ demande, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Donc, ici, la brebis, eh bien, est considérée comme étant un élément du troupeau et de l'Église, qui est l'Église. Donc, chaque brebis représente, eh bien, la même image que représente l'image du troupeau quand nous prenons, eh bien, l'ensemble des brebis, frères et sœurs. Donc, chaque chrétien, donc, la brebis, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99. Donc, chacune de nous est une brebis. Et alors, le grand pasteur des brebis, eh bien, c'est notre pasteur, c'est notre souverain berger, frères et sœurs. Maintenant, pour l'image de l'époux, de l'époux, de l'épouse, en particulier de l'épouse, Romains 7, versets 3 à 4, nous le montre très clairement que chaque croyant individuel est considéré comme étant en image, comme étant l'épouse du Seigneur. Le contexte est autre, certes, mais la vérité de l'image, est présente. Dans Romains chapitre 7, Paul enseigne sur et la loi versus la grâce. C'est le verset 4 qui nous intéresse, mais je vais vous lire le verset 4 simplement. Espérons que ça va suffire pour vous permettre de saisir le contexte. De même, mes frères, Romains chapitre 7, le verset 4, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. Voyez-vous? Pour que vous apparteniez à un autre, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, l'image d'appartenir ici, ce n'est pas appartenir comme fils ou appartenir comme fille, ou appartenir comme membre, comme associé, c'est plutôt appartenir comme épouse. Et parce que le verset 3 que je ne voulais pas vous lire et nous donne le contexte de femme ou homme qui est séparé d'un autre. Voyez-vous, verset 3, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, je suis au verset 3 du chapitre 7 de Romains, et je ne voulais pas vous le lire, mais peut-être que ça va vous empêcher de saisir en quel sens le verset 4 parle du croyant individuel comme de l'époux du Christ ou de l'épouse du Christ. Alors je suis obligé de vous le lire. Mais si le mari meurt, voyez-vous, le contexte parle de mari et femme, OK? Si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, c'est pour faire suite à cette explication que Paul va dire, eh bien, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. Voyez-vous, donc, et le croyant, dans son individualité, est marié à Christ. Elle est l'épouse du Christ, ou bien l'époux du Christ, suivant l'analogie biblique que l'apôtre Paul utilise pour nous faire comprendre la réalité, eh bien, de l'Église. Je reviendrai, si Dieu veut. J'avais déjà commencé à le faire. J'avais déjà donné quelques applications de ce que cela signifie que nous sommes une famille où nous sommes de la famille de Dieu en tant qu'Église. Nous sommes un corps. Nous sommes l'épouse du Christ. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Et j'ai dit que ce que cela doit nous rappeler, c'est le devoir de sainteté, c'est le devoir de consécration, et c'est aussi le devoir de la foi, de l'espérance, de nous rappeler que, étant donné que nous sommes l'épouse du Christ, à aucun moment l'époux ne saurait abandonner l'épouse. Dans les temps difficiles de la vie, eh bien, nous pouvons compter sur ce mari-là, sur cet époux-là, qui est un époux fidèle, nous le savons bien. Même les vrais époux humains des hommes de Dieu, eh bien, qui connaissent qu'est-ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est que l'Évangile, ils n'abandonneront pas leur épouse. Hein? Ils prendront soin de leur épouse. Hein? Et que dire, voyez-vous? Donc, je vous avais dit à l'Église du Seigneur, mercredi dernier, que ces images, ce ne sont pas des images que la Bible utilise pour faire de la connaissance, pour faire de l'intellectualité. Non, non. C'est pour nous enseigner des vérités hautement éternelles, hautement importantes. Hein? Les images ont leur importance pratique pour la vie chrétienne, hein? Ces images-là. Donc, si Dieu est notre Père, nous n'avons rien à craindre. Et si Jésus est notre époux, nous n'avons rien à craindre. C'est ça que ça veut dire. C'est ce que Dieu veut nous expliquer. Nous devons nous garder dans la pureté, dans la sainteté, parce que le Christ est notre mari, voyez-vous? Donc, un devoir de sainteté, de consécration, mais de confiance et d'espérance. Alors, voilà pour un résumé des implications de la nature de l'Église. Et de ces images-là, entre autres, que nous n'avons pas considérées, eh bien que Dieu utilise pour parler de son Église. Pour aujourd'hui, l'oratoire, d'abord, est-ce qu'il y a des questions? Non, non, on ne peut pas arrêter l'enregistrement, malheureusement, on y reviendra. Pour aujourd'hui, peuple du Seigneur, donc, nous allons avancer dans la grâce du Seigneur, nous allons parler de la mission de l'Église. Ah, c'est important. Nous avons une série de choses à faire dans la congrégation, à entreprendre dans la congrégation. Je crois que ça tombe bien que le Christ, que le Saint-Esprit de Dieu veut nous enseigner sur notre mission en tant qu'Église universelle, en tant qu'Église locale, en tant qu'Église individuelle. Quelle est notre mission? Pourquoi sommes-nous sur Terre? Pourquoi sommes-nous nés, hein, en tant qu'Église? Nous avons vu que nous sommes nés à la Pentecôte, formellement, officiellement, dans le don du Saint-Esprit, dans l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes nés à la Pentecôte, suivant la promesse de Dieu. Hein? Et alors pourquoi? Quelle est la mission de l'Église? C'est ça qu'on va considérer ce soir. Bien entendu, nous n'aurons pas le temps de peut-être terminer cela, mais nous allons commencer. Ce sont des choses que vous connaissez déjà, OK? J'ai déjà enseigné tout cela dans la congrégation à travers des prédications. Voyez-vous les images qu'on a considérées? Chacune de ces images pouvait faire l'objet de 5 ou 4 séances d'études. Hein? On pourrait parler de l'Église comme le corps de Christ pendant 5 études. On pourrait parler de l'Église comme l'épouse du Seigneur pendant 5 études, comme le temple de Dieu pendant 4, 5, 6 études, voyez-vous. On pourrait parler de l'Église comme famille de Dieu pendant 5, 6 études. Mais sinon, voyez-vous, donc je vous donne une idée. Maintenant, la mission de l'Église, c'est quoi? Pourquoi sommes-nous Église? Hein? Pourquoi Dieu nous a suscités? Hein? Pourquoi Dieu a fait de nous son temple, son corps, son épouse? Il y a une raison à cela. J'ai déjà enseigné dans la congrégation, et vous le saviez déjà, avant même que je l'aie enseigné, que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Alors, pourquoi nous sommes Église? Nous sommes Église. Le premier élément de notre mission, c'est la gloire de Dieu. N'oubliez pas ça, nous. Nous sommes nés, hein, en tant qu'Église, hein, nous sommes nés de nouveau. Oui, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Un des premiers éléments de la mission de l'Église, des buts de l'Église, de l'objectif de Dieu pour l'Église, c'est glorifier Dieu. Ah, c'est un but noble. C'est une mission noble. Glorifier Dieu. Nous l'avons vu à travers plusieurs sermons que j'ai prêchés. Servir Dieu. Bien important. Louer Dieu. Adresser à Dieu, offrir à Dieu un culte raisonnable. Frères et sœurs, rendre gloire à Dieu, servir Dieu, glorifier Dieu, rendre un culte à Dieu, c'est le but principal, hein, c'est le but fondamental de l'Église biblique. Ce but, qui est celui de glorifier Dieu, qui est le but de l'Église, ce but s'applique tant à l'Église, hein, locale qu'à l'Église universelle et à l'Église individuelle, à chaque chrétien en particulier, comme je viens d'en parler. Nous avons dans la parole de Dieu plusieurs passages bibliques qui nous montrent que rendre un culte à Dieu, glorifier Dieu, adorer Dieu, louer Dieu, frères et sœurs, servir Dieu, c'est le but fondamental de l'Église. Nous n'allons pas passer en revue tous les passages bibliques qui nous enseignent, eh bien, cette vérité biblique. Nous allons considérer les passages les plus saillants, frères et sœurs. Pensons tout d'abord à Romains chapitre 15, le verset 6, quand l'apôtre Paul dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, ah, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, et gloire à Dieu, vous glorifiez, ah, vous glorifiez, voilà le mot, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, à travers ce passage, nous voyons, eh bien, ce but fondamental de l'Église qui est celui de glorifier Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et à travers ce dernier, frères et sœurs. Et au verset 8 à 9, toujours de Romains chapitre 15, Saint Paul dira ceci pour nous enseigner, eh bien, à propos de ce but de l'Église qui est la glorification, eh bien, de notre Dieu. Paul dit dans Romains 15, verset 8 à 9, dans la suite du passage. Donc, nous avons lu le verset 6 et le verset 6, en fait, le 5 à 6. Maintenant, il est dit que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Ah, que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Selon qu'il était que les païens, c'est vous et moi, ok? C'est-à-dire ceux qui ne sont pas de la race d'Israël, ok? C'est ça que ça veut dire. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Paul est en train de nous dire que quand le texte dit dans le passage de l'Ancien Testament, je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Ah! Paul est en train de nous dire que c'était une anticipation de ce que l'Église allait devoir faire. Hein? et que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. Voyez-vous, hein? Parce qu'il est écrit, comme cela a été annoncé, Paul dit au verset 10, il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, célébrez-le, vous tous les peuples. Une église qui n'est pas versée dans la louange, eh bien, il y a un problème. Une église qui n'est pas versée dans l'adoration, elle a un problème. Une église qui n'est pas versée dans le service, dans la glorification de Dieu, elle a un problème. Que ce soit pour une église locale, que ce soit pour une église individuelle, c'est-à-dire chaque chrétien, que ce soit pour l'église universelle. Donc, l'église de Dieu, l'église du Christ, l'église pentecostale, l'église pentecôtiste, eh bien, c'est une église d'adoration. C'est une église de louange, c'est une église de service. Un chrétien qui ne vient pas à l'église pour louer Dieu, eh bien, il y a un problème à régler. Voyez-vous, je ne veux pas dire que ce n'est pas un chrétien, mais c'est un chrétien à problème. C'est un chrétien qui a quelque chose à régler, hein? Et puis, l'Internet, là, n'est pas un prétexte quand on n'est pas malade pour ne pas venir dans l'assemblée des justes, dans l'assemblée des saints, pour adorer Dieu ensemble, pour louer Dieu ensemble, parce que nous sommes en train de voir noir sur blanc que notre première mission, notre mission la plus fondamentale, eh bien, c'est de louer Dieu, c'est de glorifier Dieu. Hein, le pasteur, votre serviteur, a attiré votre attention, et bien sûr, cette vérité-là, il n'y a pas il y a la louange personnelle, certes, il y a la louange individuelle, certes, dans ma chambre, au volant de ma voiture, dans mon sous-sol, sur ma table à manger, etc., vous le savez. Tous les endroits où vous pouvez vous trouver. Hein? Cependant, l'adoration communautaire, la louange ensemble, la gloire ensemble, comme nous le faisons en ce moment-là, et que nous le faisons, eh bien, lorsque nous sommes en présentiel le dimanche matin ensemble en tant qu'église locale, eh bien, c'est les deux que ça prend pour, eh bien, l'église biblique, mes frères et mes sœurs. Alors, si vous connaissez des gens dans votre entourage qui disent que moi, je suis chrétien, moi, je suis chrétienne, et puis qui ne comprennent pas la nécessité de se mettre avec le peuple de Dieu pour louer Dieu ensemble, essayez dans la grâce du Seigneur de les convaincre, de leur parler de ces choses-là, parce que ce que je vous enseigne là, je les enseigne pour vous, mais aussi pour que vous puissiez les partager avec d'autres de votre entourage qui en ont besoin, comme moi j'en ai besoin, comme vous, vous en avez besoin. Éphésiens 1er, verset 5 et suivant, et Paul dit, qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir, le bon plaisir de sa volonté, pardon, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et au verset 12, je vais commencer avec le verset 11, toujours de la première épître de Saint Paul aux Éphésiens, il est écrit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Voici le verset 12 qui m'intéresse. Afin que nous servions, nous sommes Église, nous sommes peuple de Dieu, nous sommes Église individuelle ou locale, ou universelle, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Voyez-vous? Nous qui d'avance avons espéré en afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous sommes Église pour servir à la louange de sa gloire. Nous sommes Église pour célébrer, eh bien, le nom du Seigneur. Nous sommes Église pour louer le nom du Seigneur. Nous sommes Église pour nous réjouir avec le peuple de Dieu. Voyez-vous, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Lorsque le moment viendra pour me réjouir dans mon petit coin en individuel, je le ferai. Mais ma vocation est tout aussi bien de le faire avec le peuple du Seigneur, frères et sœurs. Nous avions parlé amplement de l'Église de Jérusalem la semaine passée, vous vous rappelez, quand je disais que l'Église de Jérusalem est fondée en même temps que l'Église universelle, j'expliquais qu'il y avait un lien d'amour, il y avait un lien, eh bien, d'entraide, etc., mais l'organisation allait se faire suite à l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte pour organiser l'Église locale. Et formellement, eh bien, c'est ce que l'Église de Jérusalem a eu à faire. Nous l'avons vu, nous l'étudions presque une fois par année dans la congrégation à travers Actes chapitre 2. Eh bien, il persévérait dans la communion des apôtres, dans les apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, frères et sœurs. Il n'y a pas de chrétien, eh bien, sans, eh bien, la louange du Seigneur. Nous glorifions notre Dieu et par la prière, hein? Nous glorifions notre Dieu par la louange. Le psalmiste a dit, celui qui offre au sacrifice des actions de grâce me glorifie. Psaume 50, verset 23. Celui qui offre au sacrifice des actions de grâce me glorifie. Donc, cela nous fait comprendre qu'une des manières de glorifier Dieu, j'en ai parlé pendant une année dans la congrégation, eh bien, c'est en offrant à Dieu des louanges et des actions de grâce. Nous glorifions Dieu également en vivant dans la sainteté, en nous conservant dans un état de pureté. Et pour notre Dieu, je parlerai davantage sur cela dans la suite des choses, si le Seigneur me prête vie. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Voyez-vous, les fruits ici, ces fruits, ce sont des fruits dignes de la repentance. Ce sont les fruits dignes du chrétien, de notre position en Christ, de notre appartenance à la famille de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Il est question de consécration ici. Il est question de sainteté ici. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Deuxième manière, n'oubliez pas, nous sommes appelés à glorifier Dieu. Un des premiers aspects de notre mission, de notre raison d'être en tant qu'Église individuelle ou bien locale ou bien universelle, c'est la glorification de Dieu. Comment on le fait, pasteur? On le fait de différentes manières saintes, dont par la prière, par l'étude et l'attachement à la parole de Dieu, et par la louange, et aussi en menant une vie juste, une vie de justice, une vie de sainteté. Mes frères et mes sœurs, selon Jean chapitre 15, le verset 8, l'apôtre Pierre déclare que nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est une façon pour lui de dire que, eh bien, si vous portez beaucoup de fruits, eh bien, les autres verront dans notre entourage, eh bien, la gloire de Dieu, verront qui est Dieu à travers nos vies, frères et sœurs. Donc, n'oubliez pas, premier objectif de l'Église, premier mandat de l'Église, premier but de l'Église, premier élément de la mission, de la raison d'être, de l'existence de l'Église, c'est la gloire de Dieu. C'est le service de Dieu. C'est la louange de Dieu. Le deuxième aspect, le deuxième élément, eh bien, c'est l'édification des saints. L'Église existe pour édifier les saints. Ah, c'est bien important. Si une Église loue Dieu, si une Église glorifie Dieu et que cette Église-là n'édifie pas les saints, eh bien, l'Église a quelque chose à régler, à arranger. Édifier les saints. Deuxième mission de l'Église, deuxième but de l'Église, deuxième objectif de l'Église. Prions que Dieu nous fasse la grâce de glorifier Dieu, de continuer de glorifier Dieu dans tous les aspects de nos vies, en tout temps, en toutes circonstances et en toute occasion. Mais prions aussi que Dieu fasse de chacun de nous des édificateurs. Hein? J'ai déjà enseigné dans la congrégation l'année dernière, pas plus tard, quand je parlais de sauver pour servir, j'ai déjà dit que nous sommes tous et chacun des édificateurs, des constructeurs. Je parlais à quelques bien-aimés en fin de semaine, je leur disais que je suis là pour construire leur âme en le Seigneur et dans sa grâce, et ils sont là pour construire mon âme. Voyez-vous, bien entendu, les bergers, les leaders sont appelés en premier à le faire. Les évêques, les pasteurs, les anciens sont appelés en premier à le faire. C'est leur tâche spécifique, mais c'est la tâche de tout un chacun, de chaque chrétien, de chaque membre de l'Église, frères et sœurs. Et dans Éphésiens chapitre 4, les versets 12 à 16, l'apôtre Paul nous montre cet objectif de Dieu pour l'Église, cet élément de la mission de l'Église, hein, cet élément de la raison d'être de l'Église, qui est l'édification de l'Église. Hein, l'édification des saints, donc l'édification de l'Église. L'Église est là pour édifier l'Église. Éphésiens 4, versets 12 à 16. Dieu a donné à l'Église des apôtres, un passage bien connu dans la congrégation, vous allez peut-être le chercher. Éphésiens 4, versets 12 à 16, Paul nous dit que Dieu a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement perfectionnement des saints. C'est-à-dire pour le perfectionnement de l'Église. Les saints ici, c'est l'Église. Ah. Pour le perfectionnement des saints, perfectionnement ici, c'est édification. Hein? Pour le perfectionnement, pour la construction de l'âme de chacun, pour la construction de la vie spirituelle de chacun, pour la croissance spirituelle, pour la maturité de chacun. C'est ça qui est la question ici, quand l'Écriture parle de perfectionnement des saints. Vous avez l'habitude d'entendre dire que ah, c'est quelqu'un qui est très perfectionné, c'est un ingénieur très perfectionné, c'est un enseignant très perfectionné. Voyez-vous, Dieu a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour eh bien, le perfectionnement des saints, pour faire de chaque saint un expert hein, dans la vie du Christ et dans la grâce du Seigneur également, frères et sœurs, mes bien-aimés. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Si ce n'était pas clair avec le perfectionnement, mais le mot édification apparaît dans le deuxième membre de l'explication de l'apôtre Paul, ce qui vient clarifier eh bien, le premier membre de l'explication de la déclaration de Saint Paul, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, voyez-vous, c'est sa édification. État d'homme fait, donc homme mature, hein, homme spirituel, hein, c'est ce que ça veut dire. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et voyez-vous, regardez la suite du texte. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants. Voilà le but de l'édification. Voilà le but de l'édification. Ainsi, nous nous édifions. Nous recevons l'instruction, l'enseignement de chacun de nous ensemble. Je vous donne, vous m'en donnez, mais en particulier des pasteurs, des évangélistes, des leaders, des évêques, pour que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Bien important de comprendre cela. Par la tromperie des hommes, il y en a. Il y en a. Des gens qui vont vous dire que leur religion est la meilleure, que notre religion n'a pas de sens, que le Christ n'a pas de sens, que Jésus n'a pas de sens, que la Bible n'a pas de sens. Il y en a. Il y en avait quand Saint Paul écrivait, au temps où il écrivait. Il y en a, ils pullulent. Aujourd'hui, il y en a encore. Des gens qui viendront nous dire que Témoin Jéhovah, c'est la meilleure. Adventiste, c'est la meilleure. Mormon, c'est la meilleure. Ou n'importe quoi d'autre, là, n'importe quelle autre histoire, c'est la meilleure. Les méditations, juste méditer, juste ou même personnellement. Yoga, c'est mieux. Il y a, ça existe encore. Il y a frères et sœurs, malheureusement. Mais avec l'enseignement, tous les mercredis soirs, avec la grâce du Seigneur, avec l'enseignement en Église, bien balisé, bien fondé sur la parole, eh bien, nous espérons, dans le Seigneur et par sa grâce, que le peuple de l'oratoire sera fortifié. Dieu va continuer à le préserver, d'être comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Quand vous priez, priez pour vos amis, pour vos parents, pour votre église, que chaque membre soit des membres eh bien, qui parviennent à cet état de maturité spirituelle, à cet état de croissance spirituelle. Nous y reviendrons quand nous allons étudier, si Dieu veut, un autre élément. Nous reviendrons sur ces passages-là. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà la mission de l'Église. Travailler en sorte que les chrétiens deviennent comme ça. Des gens qui comprennent la vérité de Dieu dans l'amour, qui grandissent à tous égards en Christ. Donc, des gens matures, des gens experts, des gens performants dans la pratique, eh bien, de la vie chrétienne, frères et sœurs. Alors, bien important, l'Église a pour mission de former ses membres. Ah, l'Église a pour mission de former ses membres dans la saine doctrine afin que ses membres atteignent, arrivent, parviennent à l'état d'homme parfait en Jésus-Christ. Je résume, hein, et que ces hommes et ces femmes puissent résister hein, aux hérésies, aux faux enseignements, aux fausses doctrines qui existent eh bien, dans le monde. Frères et sœurs, c'est bien dommage que la plupart du temps, ceux qui ont déjà des connaissances, c'est eux qui écoutent les enseignements, malheureusement. Non, toi, qu'à l'église, c'est comme ça. Hein? Malheureusement, la plupart du temps, ceux qui en connaissent déjà quelque chose par la grâce de Dieu, pas parce qu'ils sont quelque chose, non, eux-mêmes. Pas parce qu'ils sont quelque chose, non, mais par la grâce de Dieu, avec le temps, ils ont cheminé, ils connaissent quelque chose. Malheureusement, c'est eux qui écoutent tout le temps les enseignements. Malheureusement, ça connaît, c'est tout coûté. Et il a toujours gagné plus. Ça pas connaît à lui-même, il pas coûté. Lui-même l'a manqué plus. Imaginez, voyez-vous pourquoi vous et moi nous prions? Voyez-vous pourquoi nous gémissons tout le temps, nous sommes là, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions? Parce que nous sommes vraiment dans cette situation où les choses sont à l'envers dans nos mains. Malgré tous les efforts personnels que vous aurez faits dans votre famille, dans votre entourage, hein, dans votre famille élargie, dans votre famille nucléaire, dans votre église, malgré tous les efforts que vous aurez faits, eh bien, la réalité est comme ça. Ceux qui en ont, ce sont eux qui veulent écouter, qui écoutent. Alors que la parole est donnée justement pour construire les gens, la parole est donnée pour édifier les gens, pour en faire des experts spirituels dans la grâce du Seigneur. Mais maintenant, toi tu parleras, toi tu enseigneras, toi tu diras des affaires, mais celui qui fera en sorte que les choses se passent comme elles doivent se passer, c'est Dieu. Et mais c'est maintenant à ça que sert la prière. Ne vous découragez pas de prier pour le monde. Ne vous découragez pas de prier pour l'Église. Ne vous découragez pas de prier pour les enfants spirituels, les jeunes gens spirituels, les aînés spirituels. Nous en avons tous besoin de cette prière-là. Parce que le but de l'adversaire, c'est que personne n'écoute l'enseignement. Parce que ce que je viens de vous lire là, l'adversaire le sait. Regardez ce que l'Écriture dit. Regardez ce que l'Écriture dit. C'est l'enseignement qui fait en sorte que des gens parviennent à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature. Un enseignement équilibré, un enseignement qui a du bon sens, un enseignement qui est biblique, un enseignement raisonnable, sensé, spirituel. Hein? Pas n'importe quel enseignement, cela dit. C'est l'enseignement qui fait des hommes faits, des femmes faites dans l'Église, des hommes experts, performants dans l'Église, édifiés, contraires à des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, tous à chaque fois. Chaque fois qu'ils entendent quelque chose de nouvel, c'est ça qui est meilleur, c'est ça qui est bon. Ils papillonnent, ils circulent de fleur en fleur, ces chrétiens-là, de fleur en fleur. Voyez-vous le problème? Mais ce que Dieu veut, par l'enseignement et par l'activité du Saint-Esprit de Dieu en chacun, mais c'est que nous professions la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire le Christ, donc en Jésus-Christ, frères et sœurs, mes bien-aimés. Et cet aspect de la mission de l'Église, c'est l'édification, c'est ce que j'appelle, à part la glorification de Dieu, eh bien, c'est ce que j'appelle l'édification. Mes frères et mes sœurs, Paul parlera du ministère, hein, de l'édification dans l'Église du Seigneur, de la vocation d'édification de l'Église dans Colossiens chapitre 2, verset 7. Je vous fais grâce de le lire. Vous lirez peut-être à la maison. Donc, c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu doit toujours occuper une place dans nos rassemblements. Je demande aux dames de l'Église, quand vous vous réunissez, même s'il n'y a pas de prédicatrice parmi vous, de lire la parole. On lit un verset, puis c'est tout bail. C'est correct. On lit un verset. Hein? À chaque rassemblement, les hommes, à chaque rassemblement, il faut ramener, il faut garder la parole au centre de vos rassemblements. À la jeunesse, comme dans mes rassemblements avec eux autres, c'est le même enseignement que je leur donne. La parole, eh bien, avec la prière, c'est la clé, eh bien, pour la croissance de l'Église. La croissance de l'Église à tous égards, mais particulièrement, en l'occurrence, à la maturité spirituelle. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas que vous vous réunissiez, même pour 30 minutes, sans lire une portion de la parole. La plupart du temps, certaines fois, un verset va suffire. D'autres fois, ce sera deux versets, trois versets. Mais ramène cette parole, que cette parole soit le centre de la vie de l'Église, à travers l'Église en général et à travers les cellules de l'Église, parce que c'est la parole qui nous éclaire, c'est la parole qui nous sanctifie, c'est la parole qui nous conduit, c'est la parole qui nous corrige, c'est la parole eh bien, qui nous relève. Frères et sœurs, est bien important de comprendre cela. Donc, les chrétiens sont appelés aussi à s'édifier eux-mêmes. Donc, il y a l'enseignement formel, comme celui que je fais en ce moment, ou à tous les mercredis, ou en église, ou d'autres leaders de la congrégation, ou d'autres leaders invités sont venus le faire. Ça, c'est un aspect de la formation, de l'édification, de la démarche, eh bien, d'édification. Mais, comme vous le savez déjà, vous pouvez édifier aussi vous-même, même si vous n'êtes pas un enseignant de la parole. Vous le savez déjà. Quand vous me parlez, quand vous me donnez un conseil biblique, vous prenez appuyé par la parole, vous prenez un passage biblique pour me dire de quitter telle voie, hein, de passer de telle voie à telle voie, que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Ou bien quand vous m'encouragez avec des versets, vous me dites, ah, vous allez remporter la bataille, voici ce que Dieu a dit dans sa parole, mais vous êtes en train, vous aussi, de m'édifier. Hein. Je l'ai dit en début, en fait, quand on a commencé, il y a ceux qui sont appelés à faire cette œuvre d'édification comme leur vocation spécifique, et des prédicateurs, des évangélistes et autres, mais il y en a, mais chaque enfant de Dieu, c'est un édificateur, et bien important, c'est un constructeur de la vie de l'Église, comme je l'ai expliqué. Ne l'oubliez pas, frères et sœurs, mes bien-aimés. Donc, l'Église doit communiquer la doctrine. Maintenant, si l'Église est appelée à s'édifier de cette manière-là, maintenant, nous comprenons, comme je l'ai dit pour la louange, pour la glorification, il est important que chaque membre d'Église accepte l'enseignement. Il est important que chaque membre d'Église soit là pour recevoir l'enseignement. Il est important pour chaque membre d'Église d'avoir envie, d'avoir le goût d'écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, encore une fois, les chrétiens isolés, mais c'est dommage. Les chrétiens séparés, c'est dommage. Où vont-ils entendre la parole? Bon, ils vont dire sur Internet, ils vont dire qu'ils étaient dans tel service, à telle ligne de prière. Je comprends. Mais votre église locale, vous en avez une. Mais votre place est là en premier. Vous pouvez aller ailleurs, là, dans d'autres lignes de prière où vous voulez, là. Vous voulez aller dans d'autres services où vous voulez, là. Pasteur est tel, Jacques est tel, c'est correct, c'est votre vie. Mais vous êtes membre d'une église locale. Les autres membres de l'église veulent avoir un regard sur vous selon la parole. La parole de Dieu dit, veillons les uns sur les autres. Tu peux pas te dérober à notre veille. Tu peux pas te dérober à la veille de l'église. Ou du moins, vous pouvez le faire. Mais vous le faites maintenant en connaissance de cause. On le fait en connaissance de cause. C'est la raison pour laquelle l'enseignement est important à l'Église. Si nous disons que l'enseignement est important, ben il faut que chaque chrétien s'intéresse à l'enseignement. Sinon, il n'y a pas moyen de s'édifier. On vient de voir, c'est la voie de l'édification, la voie de la croissance spirituelle, la voie de la croissance en maturité. Nous parlerons à part de la croissance spirituelle, mais je voulais ouvrir cette parenthèse et la refermer tout de suite. Troisième mission de l'Église, ah, on est à 1 minute de la fin. Donc, je vais me garder de mentionner le troisième élément de raison d'être de l'Église. Donc, n'oubliez pas pour ce soir, nous avions regardé, je résume un peu ce qu'on a fait. Nous avions regardé que les principales images, la plupart des images que Dieu utilise dans sa parole pour décrire l'Église, pour parler de l'Église, pour nous révéler la nature de l'Église, s'appliquent à chaque croyant individuel, à l'Église locale. Et ultimement à l'Église universelle. On l'a démontré. On a passé une partie du temps à démontrer cette vérité biblique. Et par la suite, j'ai enchaîné avec la mission de l'Église, la raison d'être de l'Église, l'objectif de Dieu pour l'Église, les buts de l'Église. On en a vu deux, on en a nommé deux, on en a considéré deux, à savoir glorifier Dieu, hein, et premièrement, et deuxièmement, édifier l'Église, édifier les saints. Alors, je m'arrête là-dessus et afin que je puisse vous laisser le temps de peut-être partager quelques expériences ou poser quelques questions que vous voulez poser pour clarifier les choses et peut-être m'enseigner des choses aussi. Mais avant, je dois arrêter l'enregistrement pour nous assurer, eh bien, que tout se passe bien de ce côté-là, frères et sœurs, mes bien-aimés.